Mohamed Ghoul, bonjour.
Bonjour Marianne.
Vous arrivez de loin, l'Abitibi. Vous avez fait toute cette route-là pour nous.
Exactement. Et pour d'autres projets, mais aussi pour vous.
Oui, parce qu'on va en parler. Vous avez de nombreux projets que vous menez de front, Mohamed. Tout d'abord, vous avez développé par vous-même une méthode à travers les années qui s'appelle la méthode de la sociodynamique d'intégration par l'art, méthode SDIA, où vous initiez les jeunes autistes à la musique. Votre démarche a même fait l'objet d'un documentaire qui s'intitule « L'autisme au tambour » réalisé par Yves Langlois. Et on apprenait dans ce documentaire que souvent l'initiation de la musique pour les enfants, tu sais, ça passe par les percussions. Pourquoi cet instrument-là?
Par son accessibilité. C'est une guitare, ça demande une certaine motricité. Les percussions, ouais. On arrive, on frappe. On peut ne pas parler le même langage. On bouge, on vit, on parle en rythme. Donc, c'est assez accessible. Je pense que c'est la première raison. Deuxième chose, c'est que lorsqu'on joue, on est en groupe. Donc, il y a un effet direct sur l'appartenance à un groupe ou le début d'appartenance, de sentiment d'appartenance. Donc, voilà un petit peu les... Et ça développe la concentration, bien évidemment, dès les premiers instants.
Oui. On parle ici de djembé, de tam-tam.
De djembé, congas, drum, tambourine, oui. Clave, cloche. Voilà. Puis après, on y va avec le micro aussi. Voilà.
Les enfants ou les adultes, hein, parce que vous accompagnez aussi des adultes, quel est leur profil? Ils vivent avec l'autisme, mais aussi, je pense, avec peut-être d'autres réalités.
Oui. Les personnes que je rencontre, les élèves qui viennent dans nos ateliers, bon... On leur a donné une forme de définition. On parle de trouble d'intégration. Lorsqu'une personne est isolée socialement, c'est surtout le portrait. Après, qu'il soit autiste, déficient intellectuel, trisomique, pour nous, c'est vraiment pas quelque chose qui met un frein à la rencontre, bien au contraire.
Mmh. Autant des enfants que des adultes.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez observé qu'un enfant qui vit avec, bon, que ce soit un TDAH ou avec l'autisme, s'il est en contact avec la musique dès le plus jeune âge, son développement sera plus favorisé?
Oui. Ce qu'on observe, c'est une facilité à rentrer en contact avec les autres. Moins d'isolement. Ça, c'est quelque chose de très visible, très rapidement. Puis le goût de partager. De se découvrir à travers l'autre aussi. Donc, je pense que ce sont des éléments importants.
L'estime de soi aussi également, de constater qu'on arrive à accomplir quelque chose.
Exactement. Lorsqu'on est en situation de jeu, les sens sont tout en éveil. La vue, l'écoute, le goût du social, hein, c'est une métaphore, mais il y a un goût, c'est un goût aussi. Le goût du bonheur, entre guillemets, là, qui est très présent aussi. Donc oui. L'estime de soi était quelque chose de très présent.
Il faut dire aussi que les percussions, ça aime tous les instruments, là, j'imagine, je ne suis pas musicienne, mais les percussions, ça amène quelque chose aussi dans les vibrations. J'imagine
Exactement.
Que ça a un impact aussi.
C'est sa fonction première. Lorsqu'on met l'instrument entre nos jambes, les vibrations, on est fait à 80% d'eau, donc ça vibre énormément. Et au niveau des synapses, au niveau des neurones, on envoie une information constante. Mm-hmm. Il est des fois difficile chez les personnes autistes de recevoir une information constante et agréable au niveau de l'environnement.
Oui. Mohamed, comment avez-vous créé cette méthode-là?
Le mouvement est parti de Paris, où je travaillais avec l'équipe du psychiatre Moïse Assouline, qui est dans le documentaire également, où la culture était... on voulait que la culture soit accessible à tous. C'est surtout l'idée, c'est ça. C'est que les écoles de musique s'ouvrent à la différence. Et donc, c'est parti là-dessus. Mais en France, la culture n'était pas un projet qu'on voulait formaliser.
Ouais.
Donc, les relations entre Paris et l'Abitibi, d'où la raison. le centre du docteur Moïse Assouline était en lien avec le centre de réadaptation de la maison à Rouyn-Noranda, à l'époque avec Jean-Claude Bauchemin. Et donc, c'est depuis 1985 qu'il y a des rencontres culturelles comme ça entre ces deux centres. Et moi, je suis arrivé ici la première fois en 1998.
Oui, parce que vous ne faites pas l'aller-retour Paris-Rouyn-Noranda.
Non.
Plus maintenant.
Non, on s'est installé là, dans la nature. Voilà. Et donc, est arrivé ici, je dirais la mentalité nord-américaine où on formalise, où on aime bien créer des programmes. C'est un peu plus présent en Amérique du Nord et en Amérique, je pense, centrale aussi. Et en Europe, non. Donc ici, j'ai approché des chercheurs à l'époque, André Gagnon et Suzanne Dugré, qui ont trouvé qu'il y avait matière à faire une recherche, à regarder si ce que je faisais était dû à mon côté hyperactif, ou y avait-il une structure, y avait-il un programme, y avait-il des objectifs mesurables, quantifiables. Et ça a avéré que oui. Donc voilà, la recherche a été faite entre 2004 et 2006. Les résultats ont été livrés en 2007. Et puis voilà, donc à partir de là, on a pu voir qu'il y avait un effet, qu'on pouvait mesurer, qu'on pouvait calibrer l'intervention. Ce qui est important de préciser, c'est que toutes les interventions sont filmées.
Ah oui.
Nous avons une archive de 13 500 heures à peu près depuis 2001. Aussi bien en hôpital psychiatrique que dans les écoles, que dans les centres communautaires, Je travaille aussi avec la maison de la famille, la structure pour les enfants. On fait de la stimulation précoce pour les 3-5 ans. Et on fait des ateliers aussi parents-enfants. Donc, c'est vraiment d'offrir l'art et la culture accessible, une plateforme, non pas seulement sous forme de thérapie. L'effet thérapeutique est là dès qu'on écoute de la musique ou dès qu'on en fait, mais plus comme outil de communication, créer une interface de communication pour que les personnes puissent s'outiller eux-mêmes, créer eux-mêmes leurs outils. L'idée, ce n'est pas leur imposer une façon de jouer. C'est plus leur montrer qu'on peut jouer comme ça, puis qu'à partir de là, créez vous-même votre
Et pour
langage.
des gens qui n'iraient peut-être pas par eux-mêmes vers des cours de musique ou bon, vers la musique, et aussi vous le dites bien, Mohamed, c'est structuré. Il y a quand même des facettes que vous respectez. Là, je pense qu'il y a trois sphères en particulier.
Oui, la communication, et les interactions sociales et l'intégration de la communauté par le biais de spectacles ou de présentations.
Ah oui, donc il y
Voilà.
a l'aspect du spectacle.
Tout à fait.
Ça, pour un jeune autiste, c'est quand même quelque chose à gérer le
Exactement.
contact avec le public. Est-ce que vous les préparez à ça?
Oui, parce qu'on fait des simulations. Exemple, pour partir en France, on a tenté un vol régional pour voir un peu comment ils allaient réagir. Et à partir de là, donc on fait beaucoup de situations, on fait des spectacles à l'interne pour voir un petit peu l'effet. Donc on invite la famille, on invite l'entourage pour voir un peu comment ils réagissent. Mais pour certains, pas besoin de préparation, ils arrivent sur scène et puis c'est leur environnement, c'est assez impressionnant à ce niveau-là aussi. Donc ça dépend de la personne, on s'adapte vraiment à la personne, on arrive dans l'atelier sans aucune prétention de leur apprendre quelque chose. C'est une rencontre avant tout, avec des outils de communication qui est la percussion. On ne cherche pas à en faire des musiciens, il y a plein de jeunes qui font de la
C'est
musique.
pas ça l'objectif.
L'objectif, c'est pas ça. Mais si certains en font ou veulent le devenir, bah, on les accompagne là-dedans.
Donc, le contact se fait tout naturellement comme ça, sans pression. Et après, il y a tout le volet technique pour faire l'apprentissage de l'instrument.
Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a des rencontres de groupe hein, et puis des rencontres individuelles. Hein. On filme pour pouvoir justement analyser. On a des outils qui nous permettent d'analyser où l'intervention était bien faite, où l'apprentissage était bien fait, où lorsque ça ne fonctionne pas, c'est l'intervenant qui remet en question. Ce n'est pas le jeune, ce n'est pas l'adulte. Donc, à partir de là, on peut après une cinquantaine d'exercices rythmiques de base. Puis après, on peut en créer d'autres en fonction des besoins.
Est-ce que les enfants, bon, dans le cas où vous intervenez auprès de jeunes autistes, sont amenés à contribuer à tout l'aspect créatif du
C'est
spectacle?
principalement ça qui est intéressant. C'est là qu'on voit si ça fonctionne ou pas. Parce que si on leur impose une création, on devient comme. C'est comme si on peignait le tableau à leur place. Donc sur scène, on veut vraiment qu'ils s'expriment avec leurs mots, avec leur histoire. Donc ils ont des particularités. Puis qu'on retrouve sur scène. Hein. C'est vraiment quelque chose de. Ils font partie de la création.
Est-ce que vous êtes parfois confronté, Mohamed, à des difficultés?
Oui. Souvent, lorsqu'on est confronté à des difficultés, c'est lorsqu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la relation. C'est un travail vraiment de proximité avec la famille. Et si on ne travaille pas avec la famille, on a beaucoup de difficultés à pouvoir intégrer les jeunes. Si la famille n'embarque pas dans ce processus de développement socioculturel, ça ne fonctionne pas. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est souvent autour de la durée de l'activité. Des fois, ça peut être trop long ou des fois pas assez long. Donc, c'est avec le temps qu'on peut
C'est
observer ça.
possible de s'adapter ça aux exigences de chaque enfant.
Ah, c'est l'objectif, c'est pas
Oui.
possible. Il faut atteindre cet
Parce que
objectif-là.
j'imagine que la difficulté, c'est de s'adapter de façon individuelle à une personne qui vit une réalité X, Y, et après ça, ben, la collaboration avec le groupe également.
Tout à fait. L'approche vise à développer des outils de communication par élève, pour après les intégrer en groupe. Il y a une évaluation individuelle qui se fait au début, puis après aux besoins. Et si un jeune a besoin de se perfectionner, bah là on le prend en charge individuellement, puis on travaille les techniques pour qu'il puisse intégrer le groupe et se sentir à l'aise. L'idée, c'est pas de vivre un échec non plus. C'est pas d'arriver que ça soit trop compliqué, trop difficile. Donc il y a vraiment, mais les exercices sont quand même très basiques. Juste taper le tempo pour commencer. Il y a des jeunes qui peuvent rester 3-4 mois là-dessus, puis ça leur suffit. Puis après, intégrer l'autre main. Donc déjà, on travaille la motricité globale et fine. Donc voilà.
Et les adultes, ben, les parents ou en fait tous les adultes signifiants sont amenés bien sûr à assister au spectacle
Bien
à la
sûr.
fin de l'atelier, mais est-ce qu'ils peuvent aussi assister aux ateliers eux-mêmes?
Ah ben justement, je travaille avec l'association APDI TED de Montréal, sous la direction d'Isabelle Moliette. Et on a fait des ateliers pour parents seulement, frères et sœurs d'enfants autistes, et un mélange parents-enfants aussi qu'on va mettre sur place. Donc c'est vraiment un outil qu'on veut démocratiser.
Et qui est pour tous, on s'en
oui,
rend
oui,
compte.
Oui, pour tous.
Vous collaborez aussi, Mohamed, avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ils se sont intéressés à votre démarche, en fait.
Oui, les premiers chercheurs, c'était André Gagnon et Suzanne Dugré. Mmh. Et actuellement, c'est Katia Quinchon, professeure en psychoéducation, responsable de la maîtrise en psychoéducation. Et on fait ça en collaboration avec l'Université d'Ancona, en Italie.
Oui, OK.
La région des marges, qui ont passé une loi pour l'accès à l'art et à la culture pour les personnes autistes. Mmh. Et donc, le projet, c'est d'ouvrir un centre de formation international avec des locaux ici à Montréal où on habite bien. En tout cas, on va voir, on est mobile comme centre de formation et aussi en Italie et faire des rencontres internationales entre les jeunes mm-hmm. québécois autistes et les jeunes ou adultes italiens pour pouvoir développer ce réseau culturel. Oui. On veut intégrer le réseau culturel pour tout le monde actuel. Hein. On ne veut pas créer un ghetto, mm-hmm. on ne veut pas s'enfermer. Mais on veut offrir ce service-là dans les maisons de la culture en Italie, des choses comme ça.
Bien sûr, mon objectif n'est pas de comparer, mais bon, vous voyez ce qui se fait peut-être en Europe du côté de l'Italie en ce moment, ce qui se fait au Québec, autant en région qu'ici à Montréal. Quelle est la part qu'on fait à la différence? Est-ce que nous, on est un petit peu plus avancés? Est-ce qu'on peut apprendre des autres? On se situe où?
Moi, je dirais que le Québec, pour mon expérience... On laisse les gens créer, un peu plus qu'en Europe, je dirais. Qu'en Europe, c'est quand même assez cloisonné. J'ai quitté Paris à cause de ça. Je travaillais avec une équipe et à chaque fois que je voulais faire ce que je fais ici, on me disait bah, « il faut attendre, c'est pas le bon moment, tout ça, les politiques sont pas encore bien placées ». Tandis qu'ici, je suis arrivé, la seule exigence qu'on dit, moi, c'est les adultes. Les enfants autistes, en 2001, 2000, quand je suis arrivé, on dit « les enfants autistes sont pris en charge dans le système scolaire ». C'est très compliqué d'intégrer le système scolaire à l'époque. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Et donc, j'ai pris les adultes et on a vu les effets chez les adultes. Là, actuellement, ça fait 3 ans que je travaille dans une école qui s'appelle Sacré-Cœur à Rouyn-Noranda, où j'ai 5 classes d'enfants à cheminement particulier, autistes, déficients intellectuels, donc on parle de 30 d'élèves mm-hmm. que je suis toute l'année.
Oui. Pourquoi l'Abitibi au départ, Mohamed?
Justement, c'est le lien entre la structure de Paris et mm-hmm. le centre de réadaptation de la maison. Et donc, au Québec, à l'époque et même maintenant, le centre de réadaptation avait à charge les autistes, tandis que dans le reste du Québec, c'était les CRDI, les centres de déficience intellectuelle, qui avaient l'autisme. Donc, l'Abitibi développait son propre réseau de contacts autour de l'autisme mm-hmm. à travers le monde.
Mm-hmm. Bon, vous avez travaillé autant avec une clientèle plus adulte. Enfin, est-ce que vous voyez les différences? Est-ce que l'approche avec un adulte qui vit, par exemple, avec l'autisme ou avec une déficience intellectuelle se fait différemment?
Oui, un enfant est très curieux, a besoin vraiment d'un buffet d'activités, tandis qu'un adulte est beaucoup plus centré, a beaucoup moins le goût de bouger énormément et est beaucoup moins actif ou hyperactif. Chez les enfants, il y a vraiment un mouvement, là, il faut vraiment suivre, et des courts ateliers. Chez les adultes que je suis, on peut faire des journées entières d'ateliers.
Ouais.
Un quart d'heure, pause, mais on peut faire ça toute la journée. Tandis qu'un enfant, 1h30, 2h, à un moment donné, ça commence à devenir trop, puis il veut passer à autre chose.
Donc, c'est la plus grande difficulté.
Oui, oui,
un
oui.
peu hyperactif comme vous, finalement.
Exactement.
Ben, peut-être que ça vous sert, parce que ça vous permet de mener de front toutes ces activités, ces conférences. D'ailleurs, vous serez au Salon de l'autisme, 3 octobre.
Exactement.
Votre conférence portera sur votre méthode.
Exactement, oui, oui, sur l'approche et sur ses développements. Et on ouvre un centre de formation pour former soit des parents, soit des animateurs, soit des intervenants, mm-hmm. des profs d'école. À partir de janvier, il va y avoir des sessions qui vont être offertes pour former les intervenants et créer ce réseau de l'intégration par l'art.
Parce que vous n'êtes pas le seul à pouvoir offrir ces ateliers de la méthode SDIA.
Pour l'instant, si.
Ah oui, oui. D'accord, mais là, vous travaillez
en collaboration. On veut formaliser cette méthode-là aussi avec les chercheurs. C'est-à-dire que j'ai toujours été intéressé à ce que des chercheurs ont un regard sur la démarche, parce que partir de Paris, arriver en Abitibi avec des djembés, ça fait très exotique un peu là. Donc, puis dire qu'on va aider les autistes à s'intégrer en tapant sur des tam-tams, c'était pas vendu d'avance.
Au départ, fallait que vous... La place était tout à faire.
Oui, exactement. Oui. Et donc maintenant, j'ai pris l'habitude de travailler avec des chercheurs, puis les chercheurs se sont intéressés à la démarche. On veut être sûr de la précision de la formation qu'on va donner.
Mm-hmm. Et vendredi aussi, vous allez donner une conférence.
Oui, à l'Université de Sherbrooke, au symposium du X Fragile, avec l'association X Fragile Québec, avec le docteur François Carbin, exactement, à 8h30.
Eh bien, Mohamed Ghoul, c'était vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui, de vous recevoir. On va vous suivre. On vous souhaite aussi bon courage là, pour toutes les activités qui s'en viennent. Est-ce que vous avez un site, quelque chose pour...
Oui, le site sera ouvert d'ici une semaine ou deux. Maximum, ça s'appelle approche.com.
D'accord.
approsh.com.
Je le rappelle, vous êtes intervenant socioculturel, formateur, musicien et vous serez du côté du Salon de l'autisme le 3 octobre. Mohamed Ghoul, merci.
Merci Marianne.